Alors après la conférence introductive du père Maxime, nous voulions que quelqu'un puisse vous parler de l'apparition et de l'élaboration progressive du concept de personne, et puisse aussi vous donner un peu un aperçu des controverses qui ont agité les premiers temps du christianisme, certains d'entre vous connaissent forcément, des controverses notamment christologiques et trinitaires. Mathieu Cassin, nous vous recevons. Vous êtes archidala vous-même, ancien prince, agrégé de votre classique, docteur en littérature grecque. Il me semble que vous êtes spécialiste de Grégoire de Nice. Et voilà, et nous vous écoutons avec grand intérêt ce soir.
Merci. Je vais essayer de ne pas vous endormir tout de suite, et ce qui est parfois plus difficile, de ne pas m'endormir moi-même. Mais avec votre aide, on va peut-être y arriver. Donc il paraît qu'il faut que je vous parle de la notion de personne et de l'élaboration théologique qui est liée à cette notion dans les premiers siècles de notre ère. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler, en fait, ni d'anthropologie, ni d'intériorité, ni de subjectivité, ni de conscience de soi, ni de vie spirituelle, etc. Donc, en gros, de pas grand-chose de ce qu'on met aujourd'hui autour de la notion de personne. La notion de personne dans les premiers siècles du christianisme, elle n'est pas mobilisée principalement pour réfléchir sur l'homme, sa vie intérieure, sa constitution individuelle, son unicité au sein d'une communauté, etc. Elle est mobilisée sous des termes qui ne sont pas les termes de personne, alors enfin si un tout petit peu en latin, mais pas du tout en grec, on va y revenir. Or, la langue théologique à l'époque, c'est le grec. Désolé pour les latinistes parmi vous s'il y en a. Mais la notion de personne, elle sert presque uniquement à ce moment-là, et elle se développe presque uniquement à ce moment-là, pour penser d'abord ce qui se passe au sein de la Trinité, pour penser le Dieu trinitaire, et ensuite, dans un deuxième temps, ce qui amène à des changements assez conséquents, pour penser ce qui se passe en Christ. Autrement dit, comment on fait pour qu'il y ait du divin et de l'humain dans une personne. Donc trois personnes, une personne, une seule nature d'un côté, deux natures de l'autre. Donc c'est avec ce genre de choses que je vais vous ennuyer un peu. Un petit excursus d'abord, pour rester pas trop loin de la montagne Sainte-Geneviève, pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, dans l'Antiquité non-chrétienne et chrétienne, de réflexion sur des choses qui correspondraient à ce que l'on appelle aujourd'hui « personne ». Il y a un débat assez célèbre, dans un petit milieu, je l'entends. Mais entre un certain archicube que vous devez connaître, Michel Foucault, et un autre archicube que vous connaissez peut-être moins, Pierre Hadot. Donc Foucault, je ne vous le présente pas, Pierre Hadot, grand spécialiste de la philosophie antique et en particulier néoplatonicienne, justement autour de ce que l'on conçoit dans la définition d'un soi qui se pense et qui se construit lui-même. Le cours de Foucault au Collège de France en 81-82, intitulé « L'herméneutique du sujet », qui correspond à l'élaboration de l'un des tomes de l'histoire de la sexualité, porte principalement sur le souci de soi. Mais si vous regardez l'index, si vous regardez la totalité des petits résumés intertitres des différents cours, vous n'y trouverez jamais le terme de personne. Pourtant, c'est bien autour de cela que réfléchit Foucault. Comment est-ce que se construit une conscience de soi et une élaboration de soi dans l'Antiquité ? Et sur cette période-là, Foucault travaille aussi bien sur la philosophie profane, pour faire vite, que sur des textes chrétiens. Vous avez du Sénèque comme de l'Augustin, pour faire vite, mais aussi des Grecs, je vous rassure. Pierre Hadot, dans plusieurs articles, repris pour l'essentiel dans son volume « Exercice spirituel et philosophie antique » de 1993, qui est un recueil d'articles, discute et dispute avec Foucault, qu'il connaissait bien et avec qui il avait discuté de vive voix auparavant sur ces sujets-là, refusant l'approche de Foucault qui, dans l'herméneutique du sujet, parle principalement d'une culture de soi, donc qui lie l'attention à soi dans l'Antiquité comme une culture de soi, un travail sur soi pour se construire soi-même. Et Hadot, au contraire, bien plus proche des textes et de leur contexte d'origine que ne l'est Foucault, parle, lui, de transformation de soi, de dépassement de soi, de sagesse, éventuellement, mais pour atteindre, non pas soi-même, mais un tout, une raison universelle, une nature universelle qui dépasse l'individu. Autrement dit, dans l'approche d'Hadot, qui me semble beaucoup plus adéquate au texte dont il parle que celle de Foucault là-dessus, en l'occurrence, le travail sur soi, et donc qui implique a priori une conscience de soi-même et une réflexion sur ce qui fait cette unicité de l'individu et du soi qui se pense lui-même, est tourné non pas vers soi, mais vers quelque chose qu'il dépasse et dans lequel le sujet qui a continué ce travail sur soi va se perdre, se retrouver plutôt à un niveau de réalité et de conscience supérieure, mais où l'individu n'a plus vraiment sa place. Il ne s'agit pas, dans les exercices spirituels tels que Hadot peut les étudier chez Sénèque, chez Marc Aurèle, chez Plotin, de se forger une identité spirituelle, mais de se libérer, au contraire, de son individualité pour tendre à l'universel. On est là, bien loin de la conception de la personne humaine aboutie telle qu'on pourrait la trouver assez largement sur des périodes plus tardives et plus proches de la nôtre. Donc, vous voyez, il y a bien dans l'Antiquité chrétienne et non chrétienne des réflexions et des textes et des conceptualisations qui ne sont pas sans lien avec ce que l'on met aujourd'hui principalement en philosophie, en psychologie, en anthropologie, sous la notion de personne, mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Ce dont il est question, puisque vos princesses et princes me l'ont demandé, c'est de l'élaboration progressive de quelque chose qui va ensuite donner à l'époque médiévale et moderne, la notion de personne telle que vous la connaissez, à partir en fait, d'une réflexion qui est principalement tournée vers la compréhension de Dieu et de, j'allais dire, la structure interne de la divinité, c'est horrible, de Dieu tel qu'on peut le penser en lui-même, c'est-à-dire de la théologie. Si vous avez fait à un moment quelconque de votre parcours un peu de philosophie, j'ai cru comprendre que certains en avaient fait un peu plus que ça, ils m'en voudront donc sans doute du résumé, on peut dégager à très grands traits deux tendances principales dans la philosophie antique, dans la question du rapport entre universel et singulier. Une tendance qu'on dira platonicienne, pour qui le réel se situe au niveau des intelligibles et à un niveau universel, tandis que ce que l'on peut observer au niveau des êtres vivants, de la vie dans la matière, etc., des individus, de vous et moi, voilà, n'a qu'un degré de réalité bien moindre qu'il tire de son rapport aux idées ou au plan intelligible. En sens inverse, ce qu'on appellera orientation aristotélicienne, que ce soit plus simple, vous avez une attention aux individus concrets qui sont, c'est ce que Aristote rappelle dans plusieurs passages des catégories que je vous assènerai tout à l'heure, qui sont la substance première. Tel être humain, c'est une substance première, c'est de là qu'on part. Mais en même temps, la connaissance scientifique telle qu'elle peut être élaborée n'est jamais une connaissance du particulier. Donc, il y a bien un ancrage au niveau individuel, à défaut d'être au niveau personnel, mais il n'y a pas de science de ce niveau-là. Et donc, même si la répartition de la réalité n'est pas tout à fait aussi orientée et aussi nette que dans l'option platonicienne que je vous proposais d'abord, il n'en reste pas moins que le niveau individuel est à la fois le niveau premier et en même temps celui qui n'a pas une existence tout à fait complète. Ces deux orientations et une bonne partie de ce que je vais vous développer et dévider ce soir tourne autour d'une réflexion sur ce qu'est l'être et sur la manière de dire ce qui est. En grec, ce que l'on va appeler dans la philosophie occidentale « substance », ça se dit « ousia » et c'est l'un des noms dérivés du verbe « être »,« eimi ». Donc, la réflexion principale, elle est sur ce qui est et sur la manière d'en parler. Et les individus, les personnes, etc., peuvent peut-être se lier à cela, mais d'une manière qui n'est pas toujours évidente. En tout cas, c'est l'un des pôles, celui de la substance, qu'il va falloir garder en tête au fur et à mesure de notre petit parcours du soir. Le contexte de la théologie chrétienne naissante des premiers siècles est intellectuellement à la fois différent et étroitement intégré à celui que je viens de rappeler à traits extrêmement grossiers. En effet, outre de nombreuses autres dimensions, je ne dis pas que c'est le tout de la réflexion théologique des premiers siècles, il y a au sein du christianisme naissant une réflexion sur celui qui est vraiment, c'est-à-dire Dieu, lecture qui découle directement de la traduction septante de l'Ancien Testament, puisque la formulation d'Exode 3,14, de la révélation du nom divin à Moïse au buisson ardent, en grec se formule « ego eimi o on »,« moi, je suis celui qui existe, qui est ». Donc, le nom que Dieu révèle à Moïse, en grec, c'est « je suis l'être qui existe véritablement ». Donc, c'est l'un des points qui, inévitablement, sert de point de départ à la réflexion des premiers siècles chrétiens sur ce que peut être Dieu. Cela dit, cette réflexion sur la divinité, pour faire vite, se pose surtout dans le contexte de l'élaboration progressive d'une compréhension de la Trinité. Élaboration progressive, j'insiste. Il n'y a pas avant le dernier tiers du IVe siècle de notre ère une position définitive, juste, qui serait opposable à une série de déviances ou d'hérésies, qui serait la foi orthodoxe sur la Trinité. La compréhension de ce qu'est la Trinité et la traduction de ce qu'est la Trinité telle qu'elle s'est révélée dans la venue du Fils et dans l'envoi de l'Esprit, se fait progressivement, par tâtonnement, par séparation, par tentative de correction, de balancement trop marqué. Et l'essentiel de la réflexion sur les personnes divines, ce que l'on va finir par appeler petit à petit les personnes divines, naît de l'une des tentatives de comprendre ce qu'est cette révélation du Père, du Fils et de l'Esprit, que l'on désigne généralement sous le nom de modalisme, et qui voit dans le Fils et dans l'Esprit de modalités de manifestation éventuellement temporaire de la divinité. Il y a un moment où Dieu se manifeste comme une part qui sort de lui-même et qui va s'incarner en Jésus-Christ. Et puis, une fois que le Christ est mort et ressuscité, cela retourne au Père. Ou plutôt, cela retourne à l'unique divinité. Et donc, c'est en tentant de formuler plus justement ce qui d'abord a été formulé sous cette forme modaliste-là, que va s'élaborer petit à petit la réflexion sur qu'est-ce que c'est vraiment que Père, Fils et Saint-Esprit dans l'unique Dieu, tel qu'il est et tel qu'il se révèle. Un tout petit peu de vocabulaire. Si vous regardez du côté latin, c'est assez simple. Ils ne sont pas très subtils, les latins, donc c'est simple. Vous avez un terme substantia, il faut être un tout petit peu caricatural, sinon vous allez vous endormir trop vite. Vous avez le terme substantia, qui est celui qui correspond théoriquement à notre substance, et donc à l'être tel qu'il est. Et puis vous avez un terme qui a donné notre personne, qui est celui de persona. Persona, au départ, c'est le personnage littéraire, c'est éventuellement le masque, c'est l'individu social, c'est le sujet juridique, c'est le sujet grammatical, c'est la personne dans les conjugaisons du verbe. Son équivalent presque exact, mais pas complètement en grec, c'est prosopon. Prosopon, c'est pas d'abord le personnage littéraire, c'est d'abord le visage. C'est ce que vous voyez en face de vous. De là découle aussi le masque, puisque ce que vous voyez, c'est ce que vous montrez sur scène. Et comme vous le savez, le théâtre antique est un théâtre du masque. Donc là, on rejoint le latin. Et donc, c'est aussi le rôle qui y correspond. Mais c'est aussi la personne grammaticale, comme du côté latin. C'est aussi, et ça c'est un tout petit peu différent, la personne que va construire un discours rhétorique, en particulier dans un cadre judiciaire. Prosopon, c'est la figure que le rédacteur du discours, qui je vous rappelle dans la Grèce ancienne, plaide pas en son nom propre pour quelqu'un d'autre, c'est pas un avocat, il écrit un discours que la personne va dire elle-même pour se défendre. Et donc, cette personne à construire, c'est l'individu qui se présente devant le tribunal et comment il doit se présenter devant le tribunal pour convaincre. Donc c'est un des aspects de la personne. Mais en grec, il y a un autre terme qui va être beaucoup plus fondamental et central dans la réflexion théologique, c'est celui d'hypostasis, d'hypostase, qui a une toute autre signification de départ. C'est celle de fondement, de base, de résidu, y compris ce qui sort de l'homme une fois qu'il a mangé, c'est vraiment les restes. Ça finit en philosophie par désigner l'existence, les niveaux d'existence, les modes d'existence, voire l'individualité. Et c'est ce terme-là qui va, pour l'essentiel, passer du côté théologique, qui va être utilisé dans la réflexion sur les personnes trinitaires. Vous avez un autre terme encore en grec, qui est celui d'atomon, ce qu'on ne peut pas couper. Je crois que ça a donné un truc comme atome. Mais en fait, dans la langue philosophique de l'Antiquité tardive, ça désigne l'individu. Ça n'est presque jamais employé en théologie trinitaire. En revanche, dans la réflexion christologique, ça l'est passablement. Il y a toujours des soucis quand on passe d'une langue à l'autre, vous le savez aussi bien, voire mieux que moi. Le petit problème qui a conduit à quelques incompréhensions entre Orient et Occident, c'est que l'équivalent traditionnel d'hypostasis en latin, c'est substantia. Et donc, bah forcément, quand du côté oriental, on parle des personnes divines en disant qu'il y en a trois, donc il y a trois hypostases, et que les latins traduisent par quelque chose comme trois substances, forcément ça passe mal, assez vite. Voilà le petit tableau de vocabulaire. Prosopon, il ne va pas rester tout à fait vide, creux, c'est même un des points de départ de la réflexion, entre autres pour la christologie. Pourquoi ? Parce que dans l'explication de textes en grec, il y avait déjà des gens pénibles qui expliquaient les textes du côté grec, ça s'appelait un grammairien à l'époque, mais aussi dans l'exégèse, pas que chrétienne, juive de langue grecque aussi, c'est le cas massivement chez Philon d'Alexandrie, vous avez une réflexion sur qui parle dans le texte biblique. Et ça se formule « ek prosopou », etc. Hein, le prophète, il parle « ek prosopou touteou ». Il parle « au nom de Dieu », si vous voulez. Mais en fait, c'est en adoptant la personne de Dieu, en se mettant dans la situation où c'est Dieu qui parle. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que prosopon, c'était aussi la personne que construisait la rhétorique judiciaire. Le prophète, il peut aussi parler avec prosopou angelou, en prenant au nom d'un ange, comme s'il était un ange, hein, pour suivre ce dont il était question en début de soirée. Et donc, si on se pose la question de qui parle, vous voyez bien que c'est une question qu'on se pose assez régulièrement en expliquant l'Ancien Testament, certes, bon courage pour les psaumes, lieu de débat infini entre exégètes antiques, qui parle avec tel moment de tel psaume ? Vous en lirez un ou deux, si vous vous êtes jamais posé la question. Mais aussi, qui parle dans l'Évangile ? Est-ce que c'est l'homme du Christ ? Ou est-ce que c'est la divinité du Christ ? Celui qui dit « je ne sais pas », c'est Dieu ou c'est l'homme ? Celui qui dit « j'ai faim », c'est Dieu ou c'est l'homme ? Celui qui dit « lève-toi et marche », c'est Dieu ou c'est l'homme ? Et donc vous avez tout un travail réflexif dans l'exégèse, principalement à partir de la fin du 3e, massivement au 4e et au 5e, où on va chercher à comprendre, à voir, à répartir les paroles du Christ entre la nature humaine et la nature divine du Christ, pour le dire avec des termes qui sont tout à fait anachroniques par rapport à ce moment de réflexion. Fin de la parenthèse vocabulaire. Il y a des longues parenthèses. Je reviens un peu en arrière. Je vous disais tout à l'heure que dans la philosophie antique, la substance était un objet de réflexion majeur. Et que, dans ce que Aristote présentait dans les catégories, ce n'est pas forcément le cas partout, entre autres dans certains livres de la métaphysique, mais on ne va pas trop raffiner, sinon vous n'êtes pas couché, moi non plus, la substance première était au niveau individuel et était en relation avec une substance seconde qui correspondait, pour faire vite, à l'espèce. Là, il y a une substance première. Globalement, là, il y a des individus qui appartiennent à la même substance seconde, être humain. Et puis, si on va chercher, caché derrière les radiateurs, etc., il y a d'autres êtres, d'autres espèces, je ne sais pas, des araignées, des cafards, peut-être quelques souris dans un coin, qui appartiennent à un même genre, qui est le genre des êtres vivants. Autre niveau substantiel. Mais, globalement, ce qui intéresse Aristote, c'est plutôt les niveaux de définition et de connaissance, partant, des espèces et des genres. C'est les seuls qu'on peut connaître scientifiquement, qu'on peut connaître vraiment, dont on peut donner une définition. Par opposition à cela, le niveau individuel, il échappe à la définition. On ne peut en donner qu'une description. Si vous raisonnez de manière aristotélicienne, par genre et différence, vous allez pouvoir spécifier ce qu'est l'espèce humaine. En revanche, ce qu'est monsieur là-bas, ou telle princesse là, vous n'allez pas pouvoir le définir. Vous allez pouvoir le caractériser par un faisceau de qualités qui vont singulariser un individu. On appelle individu Socrate, et ce blanc-ci, celui-là, mais ce n'est pas le même que celui-là, et le fils de Sophronisque qui s'en vient, à condition que Sophronisque n'ait que Socrate pour fils. Ces êtres sont donc appelés individus, parce que chacun d'eux est constitué de caractères propres, dont le rassemblement ne saurait jamais se produire identiquement dans un autre. Vous voyez, la caractérisation de l'individu, elle va se faire premièrement par un nom propre, par opposition au nom commun, guillemette plutôt que être humain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Socrate dans l'assemblée, bon. Ni un Sophronisque. Par une filiation. Mais vous voyez, Porphyre précise immédiatement, à condition que Sophronisque n'ait qu'un seul fils. Parce que si vous dites le fils de Sophronisque et qu'il y en a deux, vous êtes déjà plus sur une définition d'individu, puisque vous en avez plusieurs. Ou celui qui a telle couleur, telle forme physique, etc. En effet, les caractères propres de Socrate ne sauraient jamais se retrouver chez un autre être particulier, tandis que ceux de l'homme, de l'être humain, je veux dire de l'homme commun, peuvent se retrouver chez plusieurs êtres humains, ou plutôt même chez tous les êtres humains particuliers en ce qu'ils sont des êtres humains. Autrement dit, la définition de être humain, de l'espèce humaine, vous pouvez l'appliquer à tous les individus. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez juste attribué l'individu en question à l'espèce humaine. Vous n'avez pas dit qui c'était en particulier. Vous êtes juste un parmi toute une série. Quand vous en êtes là, vous voyez que vous avez en fait un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être mobilisés par la suite pour penser le rapport entre l'unique divinité et le Père, le Fils et l'Esprit. L'unique divinité, va être défini comme ousia, comme substance, et en fait corrélativement comme un presque équivalent dans la théologie de la deuxième moitié du IVe siècle, comme nature, comme fusis, et chacune des trois personnes divines va être petit à petit identifiée comme une hypostase. Ça a deux implications. D'une part, que Dieu, vous pouvez a priori en donner une définition. C'est là où ça commence à frotter. C'est une substance ou une nature unique et unifiée. Donc, c'est à un niveau qui peut être défini. Ce qui fait que certains théologiens du troisième quart du IVe siècle, dont les deux plus célèbres répondent au nom, prénom peu donné aujourd'hui, Daes, Aetios, et Deunome, Eunomios, vont pouvoir dire que l'être humain peut connaître Dieu aussi bien qu'il se connaît lui-même. Ah oui, c'est un niveau substantiel, donc c'est un niveau dont on peut donner une définition, donc avoir une connaissance scientifique. La réaction de d'autres théologiens contemporains, en particulier de deux frères cappadociens, Basile de Césarée et son petit frère Grégoire de Nice. Il y a des familles un peu pénibles comme ça. Dans certains films, c'est plutôt les cousins. Déjà que séparément, ils sont compliqués, mais alors quand ils s'y mettent ensemble... L'un comme l'autre vont dire qu'il n'y a pas de connaissance par l'homme de la définition de Dieu. Que Dieu est certes une substance, mais une substance qui échappe à toute définition. Ce qui n'empêche pas de chercher à la cerner et de chercher à l'approcher. Mais... premier petit flottement. Normalement, une substance, ça se définit. Mais surtout, pour définir et pour tenter de dire ce que sont Père, Fils et Esprit au sein de cette unique substance divine, ils vont recourir à ce que l'on a rencontré tout à l'heure dans les agogues de Porphyre, c'est-à-dire au niveau individuel qui se dit hypostase et qui se dit hypostase parce que c'est en fait la réalisation concrète d'une substance. Hypostasis, dans le grec de la philosophie du IVe siècle, ça implique que c'est une espèce particulière qui se réalise. Vous êtes un être humain, mais vous n'êtes pas en même temps un chat, une chaise, et bien d'autres choses. Dans une hypostase particulière, il ne peut y avoir qu'une seule nature qui est présente. Puisque l'hypostase, en fait, elle se définit comme la réalisation concrète et individualisée d'une espèce. C'est un membre d'une espèce. Humaine, a priori. Pour cela, pour l'appliquer à la divinité, ça marche plutôt bien. Ça permet d'éviter de penser une divinité surplombante, puis trois, Père, Fils et Esprit, qui sont vaguement en rapport avec cette divinité surplombante, mais qui sont autre chose que cette divinité. Si vous pensez que l'hypostase, c'est la réalisation unique et individuelle d'une espèce, d'une substance, eh bien, c'est bien cette unique substance qui se réalise, qui s'individualise de trois en trois êtres, en trois réalisations individuelles, différenciées, mais qui relèvent de cette même substance. Comment est-ce que vous allez définir ces trois ? Ce que vous disait Porphyre tout à l'heure, il y a un faisceau de qualités qui les caractérise. Et les faisceaux de qualités qu'on va utiliser sont assez simples. Il y en a un qui est père et principe. Il y en a un qui est engendré, le fils. Et il y en a un qui vient du père mais qui n'est pas engendré, l'esprit. On va finir par dire qu'il procède du père. Et donc, vous avez les trois caractérisations. Problème, c'est d'articuler ces différents niveaux. Je vais vous lire un peu des choses parce que ça vous endormira peut-être mieux et puis parce que ça me reposera. Un texte du même Grégoire, de Nice toujours, intitulé à Ablabius qu'il n'y a pas trois dieux. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que quand vous distinguez trois hypostases, père, fils et esprit, le reproche qui était fait, c'était un reproche de trithéisme. Vous séparez trois. Et donc, Grégoire prend une analogie humaine qu'il va pousser un tout petit peu loin. Il reprend la formulation de son adversaire. « Car voici ce que tu dis, toi l'autre. Pierre, Jacques et Jean, alors qu'ils sont en une unique humanité, sont appelés trois hommes. Il n'y a rien d'insensé à ce que ceux qui sont conjoints par la nature, à supposer qu'ils soient plusieurs, soient dénombrés au pluriel à partir du nom de la nature. Si donc ici c'est ce qu'enseigne l'usage, et si personne n'interdit d'appeler deux ceux qui sont deux, comment, alors que nous confessons dans le cas des doctrines sacrées les trois hypostases, et tenons pour nul en ce qui les concerne la différence de nature, pourquoi combattons-nous d'une certaine manière cette confession en disant unique la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en interdisant de dire trois dieux ? Si on dit bien trois hommes, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas trois dieux ? L'ami Greg répond. Eh bien, nous déclarons tout d'abord que c'est un certain abus de l'usage que de nommer au pluriel, selon le nom même de la nature, ceux qui ne sont pas séparés par la nature, et de dire qu'il y a beaucoup d'hommes, ce qui équivaut à dire qu'il y a beaucoup de nature humaine. Qu'il en soit ainsi, cela nous deviendra peut-être évident par la constatation suivante. En effet, si nous appelons quelqu'un, nous ne le nommons pas d'après la nature, pour éviter que le caractère commun de ce nom n'engendre quelque erreur. Chacun des auditeurs pensant être lui-même celui qu'on appelle, puisque l'appel se fait non au moyen de l'appellation particulière, mais à partir du nom commun de la nature. En gros, si je dis être humain, normalement, tous les présents dans la salle devraient se sentir concernés. Alors que si je dis Gérard, il n'y en a qu'un ou zéro qui se sentira concerné. Si nous utilisons le terme qui se rapporte à lui en particulier, je veux dire celui qui signifie le sujet, nous le séparons de la multitude, de telle manière que ceux qui ont part à la nature sont nombreux, par exemple des disciples, des apôtres ou des talas, non pardon, des martyrs, mais quand tout l'homme est un. S'il est vrai que, comme il a été dit, le mot « homme » se rapporte non pas à chacun en particulier, mais à la nature commune. En effet, Luc et Étienne sont hommes, mais tout homme, assurément, n'est pas ce Luc ou cet Étienne. Mais la formule des hypostases, en raison des propriétés que l'on considère en chacune, admet la séparation et est considérée dans un nombre par composition, tandis que la nature est une, unie à elle-même, et constituant en toute rigueur une unité indivise. Elle n'est pas augmentée par addition, n'est pas diminuée par soustraction. Les aristotéliciens parmi vous ont reconnu la source. Mais elle est ce qui est un et elle demeure un, même si elle apparaît dans une pluralité. Elle est indivisible, continue, intégrale et n'est pas divisée, etc. Et comme on dit foule, peuple, armée ou église, toujours au singulier, alors que chacun de ces mots est pensé dans la pluralité, de la même façon, suivant le langage fort exact, on peut parler au sens propre de l'homme un, même si ceux qui se présentent dans la nature sont une pluralité. De ce fait, il est nettement préférable de corriger l'usage erroné qui est le nôtre, pour ne plus étendre le nom de la nature à une pluralité, plutôt que d'en devenir esclave et de transposer l'erreur qui s'y trouve jusque dans la doctrine divine. Donc, première réaction, faut corriger l'usage. En fait, on ne peut pas dire trois êtres humains. On peut dire trois réalisations particulières de la nature être humain. Bon, mais puisqu'il n'est pas possible de corriger l'usage, comment, en effet, se laisseront-on persuader de ne pas dire beaucoup d'hommes pour ceux qui se présentent dans la même nature ? C'est que l'usage par-dessus tout est difficile à changer. Il est peut-être vieux, mais au fond, il n'est peut-être pas si. Si concernant la nature d'ici-bas, nous n'intervenions pas contre l'usage dominant, notre faute ne serait pas si grande, vu qu'il ne résulte aucun dommage de l'emploi fautif des noms. Mais concernant la doctrine divine, l'emploi indifférent des noms n'est plus de la même façon sans danger, car en cette matière, le plus insignifiant cesse de l'être. Donc Grégoire distingue deux niveaux. Il dit, bon, si on regarde notre petite nature humaine, au fond, il faudrait dire l'être humain pour l'ensemble, mais pas les êtres humains. En revanche, un tel ou une telle ou une telle appartiennent à être humain. Bon, mais ça, dans la vie de tous les jours, ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'êtres humains dans le métro aujourd'hui. Oui, a priori, surtout jour de grève. Bon. En revanche, dit-il, pour ce qui est de parler de Dieu, là, il faut que les termes soient exacts. Lorsque l'on s'intéresse non plus à l'usage courant et à la parole de tous les jours, mais à tenter de dire le moins mal possible la divinité, là, il va falloir être précis. Et donc, il n'y a pas trois dieux. Il y a Dieu qui se manifeste concrètement dans le Père, le Fils et l'Esprit. Ça, c'est l'une des propositions de réflexion de notre ami Greg de Nice, le cousin de Bryce, je vous parlais de cousin tout à l'heure. Grégoire reprend la même chose dans un autre traité sur la différence entre substance et hypostase, qu'il adresse à son petit frère Pierre, qui est lui aussi évêque, comme Basile et comme Grégoire, et qui est lui aussi saint. Et il y a encore deux autres saints dans la famille. Bon. Cherchez pas, il y a des familles comme ça. Je vous rassure, c'est une famille de grands propriétaires terriens, famille très riche et très bien située, et ils ont tous fait des super études. Constantinople, Athènes, sauf Greg, qui visiblement a étudié au fin fond de la Cappadoce, mais qui s'en est quand même pas mal sorti. Il reprend donc dans cet autre traité adressé à son petit frère. Ainsi, il y a trois noms sur lesquels porte notre investigation. Substance, individu, atomon. J'ai dit que c'était rare de l'employer en théologie trinitaire, mais ça arrive. Homme, être humain. Et nous rattachons d'abord le tel, cet individu-là, à l'essence pour la distinction, comme je l'ai dit, des espèces qui en dépendent et qui diffèrent entre elles selon la substance. Nous adjoignons ensuite de la même façon le tel à l'hypostase pour la séparation des personnes qui ont en commun les unes avec les autres ce nom-là, c'est-à-dire celui d'hypostase et qui diffèrent entre elles non pas par ce qui caractérise la substance, mais par ce qu'on appelle accident. Et il donne un exemple, en prenant ça dans l'écriture, avec Job, qui est définie au début du livre par sa filiation, son lieu, etc. Dans la formule de la différence que tu as reconnue, poursuit-il, en ce qui nous concerne, dans le cas de la substance et de l'hypostase, tu ne te tromperas pas si tu la transposes aussi dans le cas des doctrines divines. Donc on essaye de réfléchir sur comment parler de Dieu en regardant comment on parle justement de l'homme. Tout ce que la pensée peut te suggérer sur le mode d'existence du Père, car il n'est possible d'appuyer l'âme sur aucune conception déterminée, puisque nous sommes persuadés qu'il est au-dessus de toute conception, on ne peut pas connaître Dieu exactement, tu le concevras aussi dans le cas du Fils et aussi de même dans le cas de l'Esprit-Saint. En effet, la formule, c'est logos qui est employé là, et ce n'est pas oros, ce n'est pas une définition, c'est une description de ce qu'est Dieu. La formule de l'incréé et de l'incompréhensible est une et la même dans le cas du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car l'un n'est pas plus incompréhensible et incréé, l'autre moins. Au contraire, puisqu'il faut posséder une distinction sans confusion dans le cas de la Trinité, au moyen des signes propres, nous ne prendrons pas pour juger du caractère propre ce qui est considéré de manière commune, comme le fait d'être incréé ou d'être au-dessus de toute saisie ou autre chose de ce genre, mais nous chercherons seulement ce par quoi la notion de chacun des trois sera séparée avec clarté et sans mélange de la considération simultanée des trois. Ce qu'ils essayent de faire, c'est contre une des tentatives de distinguer au sein de la Trinité, pardon, qui se faisait naturellement en hiérarchisant. Il y a le Père, puis le Fils, il en vient, donc il est en dessous, puis l'Esprit il est envoyé par le Fils, donc il est encore en dessous. On leur dit non. Ce que l'on pense au niveau de tout ce qui est commun aux trois, c'est la nature divine. Et ensuite, ils sont certes individualisés au sein de cette nature, ils sont hypostasiés au sein de cette nature. Et ça s'identifie par un trait qui leur est propre, qui ne peut pas être commun, et qui est, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être père, d'être engendré, de procéder. Donc vous voyez comment la réflexion sur le rapport entre espèce et individu, entre nature d'une espèce et individualisation au sein de celle-ci, est repris, modifié et transposé pour tenter de penser ce qui se passe en nous. Jusque-là, ça semble pouvoir se stabiliser à peu près, et c'est ce sur quoi cela se stabilise à la fin du IVe siècle. Le souci, c'est qu'après ça, quand on a réglé un problème, on en ouvre un autre. On commence à se demander, bon, ok, d'accord, il y a les trois qui sont un et l'un qui est trois, bon, on n'a pas tout compris, mais on voit à peu près comment on peut le penser. Mais numéro 2 dans les trois, enfin qui n'est pas numéro 2, mais qui, vous voyez de qui je veux parler, est, si c'est une hypostase dans la divinité, le Christ, qui est homme et Dieu, il a deux hypostases, celle de la nature divine, la réalisation particulière de la nature divine qu'est le Fils, et la réalisation particulière de la nature humaine qu'est l'homme Jésus. Comment on met les deux ensemble? Et donc on est là dans le cas exactement contraire. On n'a plus une unique substance avec trois hypostases. On a a priori, si on essaye d'aller jusqu'au bout, une unique hypostase qu'est le Christ, où il y a deux natures. Et là, tout d'un coup, le modèle qui a été utilisé pour penser la divinité ne fonctionne plus complètement. Et donc, tout ce qui va occuper les débats du 5e, puis du 6e, puis puis du 7e siècle, va être d'essayer de penser comment est-ce qu'on peut articuler les deux natures présentes dans l'hypostase unique du Christ. Et donc, ça va amener à repenser non pas tant ce qu'est la substance, ça va, ça bouge pas trop, mais ce qu'est l'hypostase, pour pouvoir la penser non plus comme la réalisation individuelle d'une nature, mais comme une instance individuelle à laquelle se rattache, ou qui se rattache à, ce serait plus juste, une nature. Parce que si vous le formulez comme ça, c'est une instance individuelle qui normalement se rattache à une seule nature, mais qui dans un cas très particulier va se rattacher à deux natures. Là, ça va à peu près commencer à fonctionner. Mais ça va prendre un peu de temps, ça va créer quelques débats dont il reste encore quelques traces, les églises miaphysites, tout ça. Ça va occuper du monde pendant quelques temps, et ça va aboutir à des solutions qui forcément vont être des solutions de compromis pour tenter d'aboutir. Donc vous voyez, cette réflexion qui au départ s'appuie sur les tentatives philosophiques de penser le rapport entre universel et particulier, et de comprendre, de connaître ce qui existe dans la nature, va être utilisé comme moyen pour penser la divinité, moyennant un certain nombre de modifications, de précautions et de nuances, et va ensuite redescendre, sans mauvais jeu de mots, lorsqu'on va chercher à s'en servir pour penser l'incarnation. Et c'est ce mouvement de retransfert au niveau divino-humain du Christ, des outils utilisés pour penser la divinité, qui vont conduire au sein même de la réflexion théologique à pousser plus loin la réflexion sur ce qui fait un être unique et individuel, et donc vont rouvrir la voie à une forme peut-être plus thématisée de réflexion sur la personne qui va ensuite déboucher vers des choses que vous connaissez beaucoup mieux sur ce qu'est une personne humaine. Mais vous voyez, c'est ce double mouvement de remontée de la connaissance de la nature vers la connaissance de Dieu, puis de tentative d'application au cas extrêmement particulier du Verbe incarné, qui va pousser, permettre la réflexion qui va suivre sur la compréhension d'une personne sur le modèle de celle du Christ, mais qui n'est pas identique à celle du Christ. Alors, si vous regardez ce qu'est période moderne et contemporaine, la réflexion sur la personne, on est très loin de cela. On va éventuellement y revenir quand, dans la théologie protestante puis catholique du XXe siècle, on va se demander Jésus, quel est son rapport humano-divin, quel est son rapport au monde comme homme et comme Dieu, etc. Mais sans forcément remobiliser ce qui aura permis ce chemin. Il est tard, vous allez avoir d'autres conférences plus savantes, et je vous souhaite plus drôles que celles de ce soir, par la suite dans les semaines qui viennent. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement rempli le contrat que m'avait proposé, Prince et Princesse,
Mais j'espère au moins que cela vous aura donné quelques points de départ ou rappelé quelques points de départ que certains d'entre vous au moins connaissaient déjà fort bien. Merci beaucoup. Je ne mords pas, je vous assure. Vous m'avez nourri avant. Oui.
Merci beaucoup pour cette conférence. Je voudrais juste savoir si j'ai juste bien compris l'argumentation de Grégoire de Nice. Donc, selon Grégoire de Nice, il y a une adéquation en fait, entre ce qu'on peut dire des rapports entre substance et personne, hypostase, pour l'être humain, et ce qu'on peut dire des rapports entre substance et hypostase pour Dieu.
Il y a une analogie. Oui. C'est-à-dire que c'est le même type de rapport, toutes choses égales par ailleurs. Mais que c'est bien le même type de rapport. C'est bien un rapport de substance à individuation de cette substance. La primauté de la substance première sur la substance seconde, c'est un truc qui existe dans une partie seulement des écrits d'Aristote. Et nos amis cappadociens, dans la deuxième moitié du IVe siècle, l'accès qu'ils ont à la philosophie antérieure, elle passe pour l'essentiel par le néoplatonisme, qui a construit un cursus intellectuel et d'enseignement où une partie d'Aristote sert de préparation à Platon. Et donc Aristote, ça pose les bases de la logique pour ensuite faire de la vraie philosophie. Mais je ne peux rien, vous relirez votre Proclus, c'est quand même assez clair. Mais c'est une base essentielle, si on ne l'a pas, ça ne marche pas. Donc, ce que Grégoire retient, alors il connaît très bien l'Aristote logique et il l'utilise parfaitement quand il en a besoin, entre autres dans les définitions des substances, mais ce qui est très clair, c'est que pour lui, le niveau d'existence le plus véritable, c'est celui de l'espèce, c'est pas celui de l'individu. L'individu, il existe comme réalisation particulière d'une espèce. Et donc ça marche assez bien au niveau divin, parce que ce qui existe véritablement, c'est Dieu, qui s'individualise, se rend accessible et connaissable, se manifeste, etc., comme Père, Fils et Esprit. Mais le niveau d'existence réel, c'est celui de Dieu. C'est pour ça que dans l'Adablabium, ça ne le gêne pas fondamentalement, bien au contraire, de dire que y a une seule humanité. Après, il se particularise dans chacun des êtres vivants appartenant à cette espèce-là. Mais
petit fond de platonisme, quand même, qui est un petit peu là. Ouais.
C'est-à-dire que finalement, le Christ s'actualise dans un autre animal, dans autre, c'est alternativement Dieu avec la
puissance. Non, 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 du tout. Ah non, me faites pas dire des hérésies que je n'ai même pas dites, si au moins je les avais dites. On en a brûlé pour moins que ça, quand même. Bon, d'accord, ça se fait plus trop. Mais quoique. Ce qu'il y a, ce que l'on tente de penser dans la réflexion christologique à partir du 5e, c'est comment, dans une seule hypostase, qui est celle du Verbe incarné, il y a à la fois la présence totale et complète de la nature divine et la présence totale et complète de la nature humaine. Mais justement, pas avec chacune son hypostase, parce que dans ces cas-là, c'est soit l'un, soit l'autre, soit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, faut trouver un truc, ça ne peut pas être les deux en même temps pour la même. En revanche, ce qu'il y a, c'est que dans un seul, où les deux natures sont présentes, alors avec une prééminence inévitable de la nature divine, mais avec une présence réelle, si j'ose dire, de l'une et de l'autre. En revanche, ce qui s'est fait dans l'exégèse au 4e, mais beaucoup moins au 5e, parce que une fois les questions christologiques posées et un tout petit peu brutalement posées par un certain Cyril, évêque d'Alexandrie, dont les méthodes pastorales avaient plus à voir avec la flague qu'avec la persuasion. Cyril, il est assez fort. Hein. Il est très très fort pour corrompre tout le monde à la cour à Constantinople. Et il est aussi très très fort pour faire venir des bandes de moines du désert pour casser la figure aux gens qui n'aiment pas Alexandrie. Mais bon, c'est aussi un très grand théologien. Plusieurs aspects. Mais bon, donc avant ce moment-là... dans la lecture de l'Écriture, et en particulier du Nouveau Testament, on va chercher à reconnaître ce qui correspond à telle nature ou à telle autre dans les actions et les paroles du Christ. Pourquoi ? Pour répondre à la grande question du IVe siècle, qui est « Mais est-ce que le Fils est vraiment Dieu comme le Père ?» Et donc, forcément, dans la lecture de ceux qui considèrent que le Fils est un second Dieu et à un niveau hiérarchique inférieur à celui du Père, dire, regardez, il dit j'ai faim, il dit j'ai pas d'endroit où reposer ma tête, etc. Il dit je sais pas, j'ignore. Donc, c'est qu'il n'est pas aussi Dieu que le vrai Dieu qui, lui, sait et peut. Et donc, l'un des astuces exégétiques qui est trouvé, qui est extrêmement féconde en fait en termes de réflexion théologique ensuite, de dire mais regardez, l'action du Verbe incarné témoigne de ces deux natures, à la fois de signes de puissance qui ne peuvent être que divins et d'éléments proprement humains. Et les deux sont là. Alors certes, comme c'est des paroles discrètes et historiques, historicisées, inscrites dans le temps, c'est forcément à des moments différents, l'un et l'autre. Mais il y a les deux dans le même.
Je vois que on ne comblait pas. Un plus un, c'était deux.
Et là, un plus un, ça fait un. Mais comme un plus un, ça fait aussi trois.
Oui, mais là,
ou un, ça fait trois. Oui, mais c'est justement peut-être aussi pour ça que les querelles christologiques vont durer beaucoup plus longtemps et que, je dirais que la solution de compromis qui est élaborée par le néo-calcédonisme quelque part dans la deuxième moitié du VIe siècle ne va jamais complètement tout régler. Il est temps de plier les Gaules. Thank you.
s'oppose à une ligne, enfin une voie droite, une voie droite. Parce que tout le monde est en train de réfléchir à ce
Est-ce que vous êtes suffisamment satisfait pour mettre la...